Hugo, on est bon? All right.
Au fond des filets. Fond des filets, le podcast.
Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Comment dire, on l'a attendu, celui-là. Je pensais pas que ça allait se passer dans des circonstances comme cette semaine, en toute franchise, mais Gabriel Gervais, Lucas Saputo, merci de m'inviter. L'autre jour, c'est Marco Donadel, je sais pas si c'est lui qui a passé un bon mot, puis finalement, vous avez dit « ouais, c'est correct, on peut le réinviter une deuxième fois », mais merci de nous inviter au Centre du Trilet, c'est super apprécié.
Merci Olivier.
Pour donner un peu de contexte aux gens, c'est une entrevue qu'on devait faire le 17 février, quelque chose comme ça.
La première fois.
Quand je suis allé faire un tour à Orlando. Ensuite, c'est il y a quelques mois. À chaque fois, ça a été... Vous avez des horaires assez particuliers, merci. Que ce soit de calendrier ou géographique, surtout dans ton cas, Luca. Ça a été repoussé deux fois. Je voulais juste commencer en vous remerciant d'honorer cette entrevue-là parce que je sais que vous avez l'intention de rencontrer les médias dans les prochains jours. C'est une petite tempête qui a passé en ce moment au CF Montréal, mais je vous remercie d'honorer cette entrevue-là. C'est très, très apprécié. Gabriel, toi, président, chef de la direction, right? Mm-hmm. On peut-tu redonner ton titre à toi, Luca, directeur principal? Je vais le lire en français, ouais. Parce qu'en anglais, en français, des fois, ça se traduit pas toujours de la même manière. Directeur principal, recrutement et méthodologie sportive.
Ouais.
Spot on?
Spot on.
En italien, c'est quoi?
Mais je sais pas. On va laisser en français.
C'est il y a 10 ans, j'ai été surpris parce que tu as 27 ans mm-hmm. en ce moment. Ça fait 10 ans exactement que tu as eu ton premier stage à l'Impact de Montréal. Tu te souviens quoi? Puis tu faisais quoi? Tu gonflais les ballons?
Ben, j'ai fait un peu de tout, honnêtement. Mais dans ce temps-là, je travaillais avec l'académie, entre l'académie et la première équipe, et je m'occupais plus des budgets de l'académie et de la première équipe.
Déjà à ce moment-là?
Ouais, parce que j'étudiais le business à l'école, et puis c'était mon stage de faire ça. Donc.
Étais-tu déjà rendu à l'université à ce moment-là?
Non, c'était juste avant que je commence à l'université.
T'as fait un prep school hein, avant
non,
de...
Non, j'ai fait ici, ben, à mon école, il y avait un grade 12,
okay.
Et donc j'ai pas fait le cégep, je fais la 12e année, puis je suis allé directement aux États-Unis.
Là, si mon calcul est bon, les années que tu as passé à jouer, tu as joué de 2002 à 2008
exact.
Au club.
Oui.
Il devait traîner un peu dans le coin, lui. T'as-tu des souvenirs de Luca?
Je gonflais les ballons.
Oui, ça, je me rappelle qu'il gonflait des ballons aussi à Simonet.
Ouais.
Il traînait les ballons pour nous, c'est une bonne chose, mais je me rappelle de Luca et de Simonet dans les vestiaires. Ils se promenaient, ils étaient toujours autour de l'équipe. Et dans le temps, j'avais les cheveux encore plus longs, donc je me faisais un bandeau avec avec le pre-wrap qu'on met pour les chevilles. Je le mettais autour de ma cuisse, je le roulais, puis c'est comme ça que je me faisais mon bandeau, puis j'en faisais pour Luca et Simonet, ils trouvaient ça cool. Il y avait des beaux cheveux aussi dans le temps.
Je te dirais que ça, c'est peut-être une histoire d'amour de l'Impact de Montréal at large. Il y a eu beaucoup de dirigeants. J'ai eu Mauro il y a quelques semaines. Je ne sais pas, moi, ce que j'ai fait. J'ai pigé dans le mauvais sac d'ADN, j'ai l'impression, en Irlande versus l'Italie ou l'Amérique du Sud. Pas tout à fait la même chose. On va parler de la situation des derniers jours dans quelques instants, mais au départ, moi, j'avais la volonté de jaser avec toi, Luca. Ouais. No offense, Gabriel.
C'est correct.
Quand même, un petit peu pour dresser un portrait de ton parcours, parce que j'ai l'impression que lorsque l'article est sorti dans la presse avant, c'était au mois de décembre, si je ne me trompe pas, ça annonçait la suite, la nomination de ton frère Simonet et toi dans des postes de directeurs principaux. Mais c'est comme si vous débarquiez un petit peu comme un cheveu sur la soupe, sans avoir de bagages au préalable. Tu as parlé de tes études, c'est à l'Université de Miami que tu as fait tes...
Ouais. En fait, j'ai fait mon undergrad et puis mes masters après ça.
Les deux là-bas,
ouais.
à Miami. Mais ensuite, je faisais la liste, l'inventaire des jobs que tu as eus, que ce soit du côté de Bologne ou du côté du CF Montréal. Plus récemment, avant... votre nomination au cours des derniers mois. Tu as été agent de liaison entre Montréal et Bologne. Ça veut dire que tu habitais quelque part aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Tu étais entre les deux,
c'est ça? Entre les deux. Plus à Bologne dans le temps, mais entre les deux, oui.
OK. C'est toi qui ramasses les Air Miles? Oui.
Ouais.
OK. Ça, c'était une réponse extrêmement rapide. Ça veut dire qu'il sait comment ça fonctionne. Ouais. Tu as été directeur de l'optimisation des affaires. Ça, c'était... Puis tu as eu un poste d'analyste des affaires de l'équipe technique. Ça, c'était à Montréal.
Ouais,
Optimisation des affaires, c'était Bologne et Montréal.
Exact. Donc, la saison 2021-2022, j'étais ici à temps plein. Je travaillais avec, dans le temps, Olivier Vassili comme support à la première équipe. Et puis, après la saison 2022, qui a été la belle saison qu'on a eue, je suis parti, j'étais plus à Bologne et je faisais le travail entre les deux clubs. Et donc, je suis là depuis les deux, trois dernières saisons.
Ton pied à terre, c'est Bologne depuis ce temps-là?
Oui. Après, c'est sûr que durant le, disons, the last year, j'étais vraiment entre les deux à cause de la situation ici. J'ai pris part de le mercato estival l'année passée à Montréal. Donc, j'ai fait vraiment entre les deux. Mais maintenant, avec après que maintenant la saison finit à Bologne, et puis à partir du 1er juin, je suis ici à temps plein. Je retourne pas à Bologne la saison prochaine et je suis là pour aider l'équipe ici.
Puis ça, est-ce que ça veut dire que t'es seulement ton travail va seulement s'appliquer au CF Montréal, évidemment?
Oui, évidemment.
Vous êtes propriétaire des deux clubs, là.
Évidemment, la synergie qu'on va avoir, ça continue. Je parle au quotidien avec Marco Di Vaio, Giovanni Sartori qui sont là-bas. Mais disons, mon travail au quotidien, chaque jour, ça va être ici au CF Montréal. C'est ici au CF Montréal.
Là, par contre, je suis allé un petit peu plus loin dans ton CV. Puis il y a un truc qui m'a fait sursauter. Je ne sais pas si Gabriel est au courant de ça. Tu as travaillé pour Maple Leaf Sports and Entertainment.
Oui.
Bon, c'est un stage de 4 mois, mais il est quand même à ton CV. Là,
mais pour être clair,
j'ai des comptes à rendre. Tu as travaillé pour Toronto.
J'étais au courant en passant.
J'ai travaillé pour les Raptors. Les Raptors et non le Toronto FC. That was a prerequisite pour moi. Non, je ne voulais pas travailler avec Toronto, c'est bien sûr. Mais j'ai travaillé avec les Raptors parce que je voulais voir un autre sport, premièrement, et travailler pour quelqu'un, disons, en dehors de la famille.
Ben ouais.
Et donc, c'était l'année que les Raptors ont gagné le championnat. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour moi.
T'étais où pour le tir de Kawhi?
Le tir de Kawhi, j'étais dans le centre. Je me rappelle pas le nom, là, mais c'était dehors, ils font là avec le vidéo et tout ça. J'étais là en train de faire la sécurité.
En train de faire la sécurité?
Ouais. Parce que ce jour-là, ils n'avaient pas assez de sécurité pour le match. Ils ne savaient pas qu'il allait y avoir aussi tant de personnes. Et donc, le match était à Toronto, mais moi, j'étais en dehors de l'aréna. Je faisais la sécurité ce jour-là.
Fait que tu travaillais pour Drake, dans le fond.
Ouais.
C'est un peu ça. Comment on t'accueille à MLSI quand tu es un Saputo?
Honnêtement, j'ai... Personne
n'a su sur le CV. Puis...
Ouais, un petit peu. Personne ne savait qui j'étais. Non, vraiment, j'ai... Parce que je voulais vraiment être... je suis une personne normale, puis je voulais être comme les autres. Donc, j'ai vraiment... I went all in, et puis personne ne savait. Donc, c'était très bien.
Évidemment, là, la situation actuelle fait en sorte qu'on peut... on va essayer de partir dans une tonne de sujets. Puis j'ai une tonne de questions pour vous aussi. L'an dernier, je présume, Gabriel, que vous... Olivier quitte au mois de mai. Ensuite, vous prenez quelques mois pour réorganiser les choses. Il y a un consultant, Corey Ray, qui arrive. À ce moment-là, en coulisses, en préparant la suite, il y a Luca et Simone qui continuent à travailler. Toi, tu prends le rôle de directeur sportif par intérim. L'an dernier, officiellement, c'était ça. Là, maintenant, c'est un collège dont tu es le porte-parole. Tu es le visage sportivement. À quel point la débarque des derniers jours fait mal? Parce que là, je parle pour moi. On sentait que tu gagnes à New York au Yankee Stadium pour la première fois en 10 ans. Tu tiens tête au Crew, qui est une des, si ce n'est pas la meilleure équipe de la Ligue. Tu élimines Toronto en championnat canadien, qui est maintenant votre principal objectif de saison. Puis là, tout d'un coup, la chaîne débarque 6-1 contre Toronto, la chaîne débarque à Forge. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est vraiment dur à expliquer, mais tout d'abord, cette dégelée contre Toronto, je ne l'ai pas encore digérée. Je ne l'ai pas digérée en tant que président du club, en tant qu'ancien joueur, en tant que fan. Parce qu'avant tout, on est des fans du club. Ça m'a vraiment fait mal. Et si je prends du recul, disons, avant la 20e minute, disons, du match contre le TFC.
L'expulsion,
excuse-moi, oui, à Joel Waterman. Et tout le travail que Marco, disons, dès le changement qu'on a fait de Laurent Courtois à Marco Donadel, toutes les statistiques, tout ce qu'on voyait, c'était positif. OK? Notamment les gros affrontements qu'on a eus juste avant ce match-là. On avait la bonne possession du ballon. On avait les expected goals qu'on parle. C'était favorable de notre côté. Donc, on voyait, on sentait qu'on tournait le coin et ça s'est comme tu dis, la chaîne a débarqué. Et après ça, le match de Forge, inacceptable de sortir de la sorte. Moi, personnellement, je m'en fous qu'on jouait trois matchs en 7 ou 8 soirs. On avait tourné l'effectif. La façon qu'on s'est présenté, on n'a pas démontré du caractère. Moi, vous voyez, ça me fait encore mal. Mm-hmm. Mais il faut rectifier la situation. La beauté dans le sport, c'est qu'on peut rebondir. On doit démontrer à nos partisans, à nos supporters, à nos partenaires, à toute la communauté qu'on n'accepte pas ça. Parce que je vous garantis, nous deux, en tout cas, puis le reste de nos propriétaires, tout le club, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas acceptable.
Ça se démontre comment, ça, que c'est pas acceptable? Parce que, évidemment, ouais, on va dire, gagne les 15 prochains matchs en ligne, puis tout d'un coup, c'est un blip sur le radar. La réalité du sport professionnel, je pense que les derniers mois nous confirment que c'est pas aussi simple que ça. Comment ça se démontre, ça?
Mais il y a des choses que nous, il faut qu'on se regarde dans le miroir, des choses que nous, on fait, nos gestes, nos actions. C'est quoi que nous, on peut contrôler? Peut-être qu'on peut revenir plus à la gestion de l'effectif et tout ça. Ça, c'est une chose. Mais le quotidien, comment qu'on gère? Après ça, c'est vraiment à nous, leaders, de se lever, de démontrer le caractère, parce qu'on ne l'a pas fait, les deux derniers matchs, de démontrer le caractère, de ne pas être naïf, si on vient au match contre Toronto, et de penser qu'on peut battre, puis ça, je peux rentrer le coach et le staff aussi, de penser qu'on peut battre Toronto avec un homme de moins, parce que j'avais l'impression, quand je regardais les matchs, on n'a pas fermé le jeu, on ouvrait le jeu, puis on est tombé dans leur piège. Mm-hmm. Mais on a été naïf, on a été pas assez humble, tant qu'à moi. Donc, les actions que tu demandes, comment qu'on fait, c'est dans le quotidien, les choses qu'on fait, puis on fait des actions. Et ensuite, c'est à nos leaders de se lever, puis à les joueurs d'être professionnels.
Et même ça commence à l'entraînement, excuse-moi.
Oui, non, c'est bien dit.
Même à l'entraînement, c'est on peut pas être complacent, dans le sens que chaque 7 contre 7 qu'on fait, chaque whatever, on doit vouloir gagner. Et puis, je pense que dans la dernière semaine, on n'a pas vu nécessairement des gars qui voulaient gagner. Et c'est ça, ça commence dans le quotidien, chaque jour à l'entraînement. Donc,
Qu'est-ce que ça vous dit sur le recrutement, par contre? T'sais, ça fait pas longtemps que tu as les deux mains dans la poutine. Ça fait pas longtemps que tu as un rôle sportif, ouais, Gabriel. Mais il y a beaucoup, beaucoup de projets. Puis on en parle souvent au fond des filets avec Frédéric Laure. C'est la beauté d'un nouveau projet qui a été embrassé en 2019, je pense, avec l'arrivée d'Olivier Renard. Au début, cette idée-là de former des jeunes puis de les vendre, c'était vu de manière très réfractaire parce que c'était comme si les autres allaient profiter de ce que nous, on fait. Mm-hmm. Je pense que mentalement, il y a un déclic qui s'est fait et les gens comprennent la visée et surtout le fait que tu peux rester compétitif. En même temps, il y a peut-être un moment où tu tires trop sur l'élastique et qu'il y a tellement de jeunesse que tu n'as pas assez de leader. Puis on va donner l'exemple de Didier Drogba qui était l'exemple ultime de ça. Mm-hmm. Kai Kamara en a été une version, même si c'est un personnage à gérer. Est-ce qu'il y a assez de vétérans, de leaders dans cette équipe-là?
Selon moi, quand on a fait le recrutement, c'était aussi pour... c'était un peu de prendre l'expérience et les jeunes aussi. Donc, c'était pour aider les jeunes à faire leur parcours. Par exemple, même dans le recrutement cet hiver, c'était Prince qui a 28 ans, Giacomo Brioni qui lui aussi a un certain âge, Fabian Herbers. Donc, c'est des gars qui ont du parcours sous leur under the belt. Mm-hmm. C'est des joueurs qui connaissent la ligue, qui, on pense, peuvent aider nos jeunes à... On connaît cette ligue, c'est une ligue où, de momentum, dans le sens que tu fais 10 matchs très bien, tu te rends en playoff dans le bon moment, etc. Tout peut se passer. Donc, on pense qu'on a un petit peu ce mix. Peut-être on voit qu'on a besoin un petit peu plus de caractère durant les matchs difficiles ou durant des moments difficiles. Mais en général, l'idée qu'on a conçue, qu'on a créée un peu l'effectif, c'était vraiment de supporter les jeunes qu'on a, les Sealy, les Sinchuk, Neil, etc., avec des gars d'expérience. Donc,
si je peux juste me permettre de rajouter là-dessus, c'est on est allé chercher aussi des vétérans, comme Luca l'a bien mentionné, pour encadrer. Et à ça, on ajoute Sam Piette, notre capitaine, Joel Waterman.
Qui sont toujours là.
Qui sont là. On a Jonathan Sirois qui a beaucoup de matchs, malgré qu'il soit un jeune gardien. Mm-hmm. Il a beaucoup de matchs, expérience, c'est l'équipe nationale. Nathan Saliba. Et même un Jalen Neal. Jalen Neal a joué un quart de finale de la Gold Cup, si je ne me trompe pas, avec l'équipe nationale. Donc, ce sont des jeunes, ou un George Campbell aussi avec l'expérience équipe nationale, même Caden Clark vient d'y aller. Ce sont des jeunes, mais quand même avec du bagage. Pour avoir joué la Gold Cup, c'est de la pression, c'est aussi une belle expérience qu'on peut ramener vers les clubs respectifs. Donc, l'idée, ça a été tout le temps ça, d'avoir de l'expérience autour de la jeunesse. Et on l'a fait de façon intentionnelle. Maintenant, est-ce que tous les leaders démontrent le caractère qu'on souhaite si on regarde le portrait des deux derniers matchs? Absolument pas. On ne peut pas dire ça. Mais de façon générale, l'idée est absolument d'encadrer les jeunes.
Vous parlez de Giacomo Vrioni. Qu'est-ce que vous saviez sur son dossier? Je sais, tu as été clair là-dessus en début de saison. Vous saviez qu'il serait absent. J'étais là à Orlando. Il n'avait toujours pas foulé le terrain d'entraînement avec ses coéquipiers. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils, sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs vous attendent dans plus de 100 pays. Envie de contenu étranger? Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez, respirez. Rendez-vous sur le surfshark.com/BPM Sport avec un S pour profiter d'une offre exclusive avec 4 mois gratuits supplémentaires ou utilisez le code promo BPM Sport, toujours avec un S.
Puis je me suis dit, c'est pas un problème, on le verra au mois d'avril. Mmh. Tu sais, début avril, mi-avril, il commencera à être influent, à jouer. Mais là, finalement, ça a été le mois de mai. L'expression la plus tendancieuse, ce serait vous êtes vous faites passer un citron ou est-ce qu'il y a eu une rechute que vous attendiez pas? Qu'est-ce que vous saviez ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous a surpris avec Vrioni?
En fait, dans son cas, ça devait être peut-être 2-3 semaines disons, qu'il pouvait pas jouer. En début de saison, les premiers matchs. Il a eu une petite rechute quand on est revenu sur le turf ici. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça a un peu. Ça a retardé un petit peu son départ, mais thank God qu'il est là et il peut nous aider parce qu'on voit qu'il fait une différence sur le terrain.
Dans la gestion de la dernière semaine, une chose qui est un petit... Puis encore là, on avait la discussion avec Frédéric Laure au fond des filets cette semaine. Moi, j'ai de la misère un petit peu à réconcilier choix d'effectif pour Forge et objectif du club. J'ai été on the record cette année à dire que pour moi, dire qu'on voulait gagner un trophée, c'est systématique, je pense, de toute façon, là, surtout avec l'histoire du club en championnat canadien, avec la Ligue des champions. Mais après, il y a quoi? On décide de ne pas faire entrer un Vrioni, de faire jouer Vrioni le match au complet quand tu l'as dit, tu te fais battre. C'est comme si la commande de ce qui était le plus important, c'était pas rendu au coach ou si ça s'était pas bien compris. Est-ce que c'est de l'extérieur, il nous manque des morceaux du puzzle? Ou...
Ben, on a eu cette discussion à l'interne aussi, mais non, si on regarde l'équipe qui était à Forge, c'est quand même une équipe, et je veux pas faire des excuses, mais c'est quand même une équipe qui, on parle de Jonathan, on parle de Bouga qui fait les matchs en MLS, on parle de Alvarez qui était là, Nathan,
Waterman,
donc Prince, donc c'est oui, on devait faire un peu de rotation parce que Jalen ne pouvait pas faire enchaîner deux matchs comme ça tout de suite. Vrioni, on voulait être sûr que sur le turf, il était OK. Donc, après, on a eu d'autres problèmes avec Caden qui a senti quelque chose et même pas voyagé. Herbert aussi. Donc, certains, c'était dans les choix qu'on avait, dans le sens qu'on n'avait pas vraiment le choix de faire un peu de rotation.
Mais Opoku, par exemple, face à Toronto, moi, c'est le bout où je ne comprends pas. Si tu veux faire jouer Opoku, tu dis que tu vas peut-être te fier sur lui avant Graham Roach
et Vilsain, mais pourquoi ils ne rentrent pas? C'est comme si tu pars de 0 à 100 tout d'un coup dans ce qui est le match le plus important de l'année. Là, si on met la Coupe de Ligue de côté.
Dans ce cas spécifique, le coach et le staff pensaient que Opoku pouvait faire mal au défenseur qui était contre
Son profil.
Et donc, ils pensaient qu'en le mettant, disons, dès le début du match contre Forge, il pouvait faire quelque chose plus intéressant. C'est pour ça qu'après, contre le match contre Toronto, le match est déjà... Je ne veux pas dire fini, mais dans le sens qu'il préférait le garder pour Forge parce qu'il voyait quelque chose qu'il pensait que Opoku pouvait faire.
Mais juste pour peut-être ajouter à ça, c'est qu'on veut gagner tous les matchs. Okay? On va dans cette mentalité qu'on veut gagner tous les matchs. Et là, il y a une grosse préparation à faire. Puis on sait, le mois de mai est toujours compliqué.
C'est fou.
OK. Le match, parce qu'on avait eu des discussions aussi avec Marco, Luca les a eues, moi j'ai eu certaines discussions. Si on me pose la question... Quel est le match le plus important entre ces deux-là? Toi, tu dirais tout de suite, ah, oh, mais c'est de gagner le championnat canadien. Il faut absolument reposer tout le monde pour Forge. Mais ce n'est pas ça notre mentalité. On a sorti pour gagner contre Toronto. C'était ça le mandat. Mm-hmm. Okay? Après ça, avec notre bassin de joueurs, disons que s'ils restent en santé, là, on va aller à Forge. On savait qu'on allait avoir une équipe solide. Puis quand on regardait les charges des dernières semaines, on savait qu'on avait des joueurs qui allaient être frais pour ce match-là. Pas peut-être les 11 partants, c'est impossible avec un délai de autant de jours. Mais tout ça pour dire qu'on, si on regarde les 15-20 premières minutes du match contre Toronto, on avait près de 80% de la possession. On contrôlait le match. Mm. On a bien entamé le match. C'est le déclic et après ça, on a mal réagi absolument. Le reste, c'est inacceptable. Donc, je veux juste clarifier, Olivier, on est sorti. Parce qu'on savait contre Toronto à domicile, c'est un match qui est encerclé, ça fait longtemps. Là. C'est hyper important pour nous et nos supporters et nos partisans.
Oui, puis dans la réalité, encore là, on en parlait avec Fred, la réalité du week-end des rivalités, puis 3 jours plus tard, un match de championnat canadien qui enchaîne, ça rend la chose particulière pour vous. Maintenant, juste pour conclure sur ce dossier-là, avec ce que vous savez maintenant de votre effectif ou les réponses que vous avez eues, le feriez-vous différemment? Parce que vous n'êtes pas encore éliminé du championnat canadien, là. On va juste partir avec...
Je pense qu'on peut apprendre de si je te demande il y a 10 ans ou n'importe quoi, est-ce que tu ferais des choses différemment? Peut-être, et c'est un peu...
On se fait raser les cheveux beaucoup plus tôt. Ça, je te comprends.
C'est un peu la même chose. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai fait ou qu'on a fait cet hiver ou l'été passé que peut-être on ne referait pas ou on ferait différemment, c'est sûr. Mais je pense qu'on est dans une situation quand même, pour le match qu'on a joué contre Forge qui était vraiment pourri, surtout la première demi, on revient à la maison quand même avec une opportunité de d'avancer. Donc, c'est pas... On était quand même chanceux parce que ça pouvait être plus difficile.
Ouais, ils ont eu des chances qu'ils ont gaspillé en première mi-temps. Marco Donadel va être... Corrigez-moi si je me trompe, mais la vibe qu'on a eue lorsque Laurent Courtois a été congédié, Gabriel, t'as semblé pas avoir de date limite pour statuer sur Marco. Je ne sais pas si pas de date limite, c'est 4 mois ou 6 mois ou 1 an, peu importe. Mais au final, on va le juger sur quoi? Est-ce que c'est sur sa capacité à vous faire un bon pitch de vente de ce qu'il voit pour l'an prochain, sa capacité à gérer le groupe, les résultats? Parce que tout ça, ça a des horizons puis des comportements bien différents au quotidien.
Mais je vais parler personnellement. Je vois Marco... très bien avec le groupe. La vibe, même si on ne fait pas bien, disons, le vibe du groupe est complètement changé au début de saison. Puis on voit que le groupe travaille bien, on est structuré, même dans les advanced stats, en termes de expected goals, possession, etc. On voit on est dans la bonne voie. Après, c'est sûr qu'il y a des matchs, j'ai le mot italien, pas français, sbagliate, qu'on rate complètement. Mm-hmm. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du sport aussi, mais non, pour l'instant, Marco fait très bien. On a même apporté un de ses assistants qui a travaillé avant, Lorenzo, qui aide le groupe aussi. Donc, pour l'instant, on est très content avec Marco, le staff. C'est sûr que we expect more. On veut gagner, on veut des résultats. Mais globalement, en tant que tel, la communication qu'il y a avec les joueurs, avec le staff, avec le médical, etc., c'est très bien. Puis on veut continuer avec lui.
Ouais, juste pour ajouter, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Okay. Est-ce que nos jeunes, de la façon qu'ils développent, dans l'environnement que lui va mettre en place avec ses coachs et avec toute l'équipe autour de lui, la façon qu'on joue. Oui, les résultats absolument sont importants. Mm-hmm. Il y a une certaine période de transition pour lui aussi. Et comment qu'il représente notre équipe, nos valeurs, c'est ça qui est hyper important pour nous. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, mais on va lui donner le temps. Il y a un entraîneur qui connaît bien, qui est venu maintenant pour l'aider. On veut qu'il réussisse.
Et Marco, il a le club dans le cœur. Il really cares, puis il veut le bien du club. Et puis on voit ça, ça se voit dans chaque jour quand il est ici, quand il travaille. Donc c'est bien de voir.
Ça, c'est cette fameuse passion qui est au cœur de ce que le club a toujours été, qui a été au cœur aussi d'un discours de Joey dans son entrevue il y a un mois, je parle de fil, un mois et demi. Pour vous, ça se manifeste comment? Parce que tu peux avoir un nerd dans le sous-sol de ses parents qui fait du data analysis, puis il est ultra passionné, puis il construit la meilleure équipe du monde parce que lui, son truc, c'est ça, c'est les chiffres. T'en as d'autres qui peuvent être sur le feeling d'un match, puis c'est ça qui les allume, qui les passionne. Bref, ce que je veux dire, c'est que le mot passion peut avoir des significations bien différentes, puis être animé de manière bien différente au quotidien. Pour vous, ça ressemble à quoi? L'exemple type, là, c'est est-ce qu'on descend dans le vestiaire, on kick des poubelles? Est-ce que c'est on présente un projet de manière enthousiaste sur le long terme, puis ce qui nous fait triper, c'est de construire vers là? Ou est-ce qu'au contraire, ce qui nous anime, c'est le résultat du lendemain? Pour vous, chacun, puis je serais curieux d'avoir vos descriptions, définitions respectives de la passion. Peut-être toi, Gabriel, en premier.
Oui, il n'y a pas de problème. Moi, la passion, bon, ça se manifeste de différentes façons. Si je parle dans la...
Te fâches-tu des fois, en fait?
Oui, je me fâche.
Oui?
Ah oui? Ben, me connais.
Ouais.
Non,
mais dans la bonne manière, toujours avec le respect, toujours...
Il replace les poubelles après, je pense, c'est ça.
Quand on entend aussi qu'ancien joueur, quand je devais parler puis hausser la voix, je ne faisais pas tout le temps, mais quand je devais le faire, je le fais. Je l'ai fait dans le passé avec les joueurs, avec les coachs, avec mes équipes. Mais c'est pas... La passion pour moi, c'est les émotions qu'on vit. Puis là, je dors très croche les dernières nuits. Je suis pas bien parce que l'équipe ne va pas bien. Je suis alimenté par toute cette énergie, okay, qui peut amener l'énergie de nos partisans, l'énergie de nos supporters. Mais en passant, chapeau à nos supporters qui ont chanté jusqu'à la 90e minute contre Toronto. Ça, on a grandement apprécié. Donc, c'est toute l'énergie qui peut amener une victoire comme une défaite parce que c'est des hauts et des bas. Et donc, la vie en général, c'est comme ça. Mais le soccer ou le sport se vit de cette façon-là. C'est dans l'émotion. Et moi, qu'est-ce qui est contagieux pour moi, qu'est-ce qui me rend encore plus passionné, c'est les personnes autour de moi qui le sont autant. Et croyez-moi, tout le monde dans l'organisation, ils ont la mine basse, ils baissent la tête, mais nous, on est ici pour construire quelque chose à long terme. On va lever la main quand on fait des erreurs, quand on doit s'améliorer, mais maintenant, les choses ne vont pas bien, mais ça démontre la passion. On veut améliorer les choses. Et donc, quand notre propriétaire, Joey Saputo, sort de la sorte, c'est que je connais Joey, ça fait plus que 20 ans, c'est qu'il parle avec son cœur. Tous ses commentaires, c'est autour de son amour profond pour ce club. Il demande de l'excellence de tout le monde parce qu'il veut le bien du club. Et la même chose pour moi. Donc, moi, c'est comme ça que je le définis. Moi, les choses les plus importantes dans ma vie, c'est ma famille avant tout. Et numéro deux, c'est le club. C'est, en gros, si je peux te résumer ma vie, peut-être tu vas trouver ça plate, Lily.
Non,
c'est sûr ma vie.
Si je trouvais ça plate, je te confirme, je serais ailleurs un matin. Je serais pas ici avec toi. J'ai hâte de t'entendre, Luca, mais je voudrais juste rebondir sur un élément que tu viens de dire. Tu dis on bâtit sur le long terme.
Oui.
C'est intéressant parce que quand Kevin Gilmore est arrivé à la présidence, il a dit on est conscient que la business du sport, c'est une business où tu vends des émotions. C'est comme ça que tu vas aller chercher les gens. En même temps, tout le projet ne peut pas capoter pour le meilleur ou pour le pire, au bout de trois défaites ou trois victoires. Dans cet entretien-là de Joey, c'était la première fois en plusieurs années. Parce que tu te fais poser la question d'un déménagement ou d'une vente éventuelle à chaque année, puis tu réponds depuis deux, si ce n'est pas trois ans, la même chose à chaque fois. On est là pour rester. Tu as fait cette entrevue-là avec Alexandre Pratt, avec ton frère Simonet, vous avez dit exactement la même chose. Là, il y avait, je ne sais pas si c'est l'Italien qui entre en ligne de compte, mais il y avait un genre de conditionnel là-dessus. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que votre projet, c'est toujours de travailler sur 5, 10, 15 ans ou est-ce que le long terme, dans une teinte MLS, c'est 18 mois?
Non, nous autres, non.
Mais je peux parler, le fait que maintenant je suis dans le club, mon frère est dans le club, j'étais à Bologne les trois dernières années, mais là je suis ici à temps plein, c'est parce qu'on voit le club en long terme et on parle pas de 18 mois, 2 ans, 3 ans. Après, on sait jamais dans la vie, on peut pas dire, je peux pas dire jamais, mais on est là pour y rester, on veut être là, puis on veut rapporter le club où est-ce qu'elle était, où est-ce que je me rappelle elle était.
Là, les fans de l'Impact vont avoir peur parce que Didier Drogba, le dernier qui a dit « on sait pas », c'est Didier Drogba dans un bilan de fin de saison. Puis la prochaine chose qu'on voyait, c'était qu'il était dans les estrades avec Roman Abramovich puis il cherchait une job d'entraîneur adjoint à Chelsea. Là, je veux pas mettre tout le monde sur le nerf, mais c'est quoi la prochaine étape? Parce que j'ai l'impression qu'on est à un beau fixe principalement dû au stade. Corrigez-moi si je me trompe, mais... Le feeling que j'ai eu quand vous avez parlé, les chiffres qui sont sortis, c'était 75 à 100 millions que la famille serait prête ou les propriétaires seraient prêts à investir pour le stade. Il y a la situation avec la ville qui est extrêmement floue. Sens-toi très à l'aise de préciser ce que tu peux là-dessus, Gabriel. Mais est-ce que c'est ça le step ultime pour dire là, arrêtez de nous poser cette question-là de grâce. On est là pour rester. Pourquoi on investirait ou on réfléchirait à investir autant si c'était pour s'en aller? On en est où dans le dossier du stade?
Mais le stade, là, je suis comme une vieille cassette. Je ne sais pas si les gens connaissent les cassettes, là, mais...
Ça, c'est avant les mini-disques.
on mentionne ça, c'est qu'on veut bien connaître le plan directeur, la vision globale du parc olympique avant de faire quoi que ce soit de majeur.
Mais on peut-tu le réveiller, le gars, au parc olympique? Non, mais parce que...
Écoutez...
C'est pas un job personnel, là. Je sais que c'est des...
On a une très bonne, honnêtement, là, on a une très, très bonne communication avec le parc olympique. Joël Brodeur qui vient de rentrer en poste, les dirigeants aussi. On est à l'affût de ce qui se passe au stade. On nous parle aussi d'un projet de l'hôtel. On est impliqués, là. La collaboration est excellente, OK? Je suis pas ici... pour venir lancer des flèches à personne.
Non, non. Et
la collaboration est excellente. On a amélioré beaucoup de choses au point de vue entrée et sortie des stationnements, des choses qu'on peut faire autour de l'esplanade, la communication autour, OK, voici les travaux qui s'en viennent au stade olympique qui ne causent aucun problème dans nos opérations. Vous. On a des coups d'œil dans qu'est-ce qui s'en vient potentiellement dans le stade. Donc, ça va extrêmement bien. Donc rien à plaindre là-dessus, mais... Juste pour finir, avant que le club mette de l'argent significatif, parce qu'on met de l'argent chaque année dans le stade. Si vous avez remarqué,
les coursives,
des nouvelles zones premium, on active beaucoup avec nos partenaires. Donc, on a une vision. Quand je dis à long terme, c'est ça, on évolue. Et la MLS, la façon qu'elle a évolué dans les stades, c'est vraiment avec une demande de haut de gamme qui est capable de vraiment venir combler beaucoup le côté financier. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire constamment, augmenter le pourcentage de sièges qui sont au plus haut de gamme ou au premium. On va continuer à faire ça dans notre stade. Mais on veut savoir vraiment l'ensemble de l'œuvre du parc olympique avant de pouvoir aller de l'avant. Et donc, c'est ça.
Est-ce qu'il y a un échéancier pour le savoir? Tu sais, quand je te dis, c'est à la blague, là. Est-ce qu'on peut la réveiller, la personne, au parc olympique? Mais moi, c'est le message, puis je comprends que tu n'en es pas responsable, mais c'est le message qu'on a depuis 3, si c'est pas 8 ans, parce que la première fois qu'on était là avec Richard Legendre et Joey pour des maquettes, puis on a pour la première fois parlé des taxes, c'est en 2018, ça commence à dater un peu. Est-ce que vous vous rapprochez d'une possibilité? Il y a des élections là, qui s'en viennent à l'automne, c'est une bay window d'opportunité pour en faire un enjeu électoral?
Non, mais le dossier des taxes n'est même pas sur la table, on n'est même pas rendu là. On veut bien comprendre la vision globale avant de faire des investissements qui serait matériel dans le stade. Mais nous, pour être en mesure de bien opérer, si on parle d'infrastructures de façon générale, on a besoin d'un stade à capacité, comme la MLS demande, avec une configuration qui est optimale pour nos partisans, pour nos partenaires, pour jouer les matchs pendant les mois d'hiver, d'un point de vue compétitif.
Avec le calendrier qui s'en vient.
Je te parle de l'actuel.
Si tu veux jouer une finale de MLS Cup à la maison, par exemple.
Il n'a pas commencé les 7 premiers matchs à l'étranger.
C'est plus de ce côté-là.
Je comprends.
On peut étirer le stade novembre-décembre, mais de jouer un match au mois de janvier, février, mars à l'extérieur ici à Montréal, c'est pas faisable. Donc, nous, pour être mieux organisés d'un point de vue infrastructure, et de là l'importance de tout ce qui se passe au stade olympique. Et également pour une partie de notre pré-saison, d'être en mesure
d'être à la maison. Ouais. Juste pour conclure là-dessus, si tu pouvais claquer des doigts, parce que là, il y a beaucoup de choses là-dedans que vous ne contrôlez pas. Mais tu peux claquer des doigts, puis demain matin, là, tu me dis, il est arrivé ça, 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 ça nous permet d'avancer. Qu'est-ce qui vous aiderait? Puis je sais que ce n'est pas des demandes à la ville ou au parc olympique, mais qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir un feu vert où vous dites, là, ça fait tout le sens du monde d'investir puis d'aller de l'avant avec les améliorations?
Mais c'est vraiment la collectivité qu'on sente qu'on veut bâtir quelque chose ensemble, que ce ne soit pas la responsabilité uniquement de la famille Saputo de venir, OK, c'est eux qui mettent de l'argent puis pour tout bâtir l'infrastructure nécessaire. C'est d'avoir cet engouement et d'être impliqué. Et je ne parle pas juste de la ville, ça peut être le gouvernement, ça peut être toutes sortes d'entités qui peuvent embarquer pour continuer à rayonner et développer le sport.
Quand vous regardez ce qui se fait ailleurs, tu parlais tout à l'heure de ton expérience, c'était 4 mois, là, mais c'est quand même une expérience avec les Raptors. Je sais, Gabriel, toi, tu as passé beaucoup de temps, je ne sais pas si tu le fais encore cette année, mais à te promener dans des stades, surtout des stades que tu avais peu connus ou des nouveaux stades pour voir les bonnes pratiques à travers la Ligue. Il y a des clubs qui ont rentré des investisseurs qui sont, j'ai envie de dire, un peu « token ». Nashville avec Reese Witherspoon, je ne sais pas combien elle a mis, là. C'est plus token que ce que j'aurais à mettre dans Nashville, je vous confirme. Je pense que c'est là aussi où Giannis Antetokounmpo est investisseur, si je ne me trompe pas. Bref,
Patrick Mahomes aussi, Kansas City.
Exact. Ouais. Donc, vous voyez les genres de profils. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous, ça, à un certain moment? Puis je ne sais pas à quel point c'est dans ta cour ou pas, Luca, mais je te pose la question à toi parce que tu es de la famille, à proprement parler. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir une plus-value ou est-ce qu'au contraire, ça dénaturerait ce que vous êtes comme club? Là,
non, je pense que ça pourrait avoir une plus-value, mais ça dépend toujours de la situation et de l'opportunité. On n'est pas fermé à ça, mais personnellement, je ne fais pas partie de ces discours, donc je ne sais pas.
Toi, c'est plus le côté sportif. Qu'est-ce qui ferait en sorte? On va se projeter sur un championnat canadien qui est réchappable, vous êtes capable de rattraper le coup. Mais au-delà de ça, c'est quand même très difficile en MLS. Il y a la Coupe des Ligues qui s'en vient par la suite. Je sais que les supporters ont fait savoir leur mécontentement. Certains sont venus te voir au stade, je pense, Gabriel, le week-end dernier. D'autres sont allés sur les médias sociaux, je pense au 1642. Qu'est-ce qui ferait pour vous que cette année-là, dans son ensemble, même si vous soulevez le championnat canadien, au-delà de ça, ce serait peut-être pas une réussite, mais certainement pas une année qui est complètement tombée à l'eau. Sportivement?
Premièrement, je les comprends, les partisans, parce que je le sens aussi. Je sais que Gabriel le sent aussi, mon frère, et beaucoup de personnes qui travaillent ici dans les bureaux, non seulement au centre Nutrilet, mais même au stade, dans l'administration. Donc, c'est normal qu'ils ne sont pas contents. C'est normal qu'ils veulent gagner. Nous aussi, on veut. Mais... C'était quoi la question? Excuse-moi, est-ce que c'était normal?
Qu'est-ce qui ferait que cette année-là, à quelque part, vous a servi à quelque chose où vous avez fait un pas vers l'avant à partir de maintenant, qui est, je pense, le point creux de la campagne jusqu'ici, là, avec les deux derniers matchs?
Évidemment, comme Gabriel a dit en début de saison, on veut gagner un trophée, donc gagner le championnat canadien ou la League's Cup, qui nous permettent d'aller en Champions Cup. Ça serait quand même une réussite.
Qui me permettrait aussi de poser des questions sur le stade encore.
On va éviter Gabriel. Mais je pense que ça, c'est notre but numéro un. Et après, c'est continuer à bien jouer et surtout de mailler le maillot, excuse-moi.
C'est un exercice d'addiction.
Ouais. Parce que des fois, on voit dans certains matchs que peut-être le grit n'est pas là. Mm-hmm. Je pense que si on peut faire ça, ce serait un pas vers l'avant.
Oui, si je peux rajouter là-dessus, tant aussi longtemps qu'on n'est pas mathématiquement éliminé,
on
va continuer à se battre puis on va y croire. Si on se rappelle l'année passée, le pourcentage, je ne me rappelle même plus c'était quoi, là. C'était très bas de faire.
Avant.
Et comme Luca l'a bien dit, la MLS, c'est des momentum. Et notre enjeu maintenant, c'est un manque de constance et une incapacité de bâtir du momentum. Des deux côtés, je parle, Olivier, du côté de dire est-ce qu'on peut enchaîner 5-6 victoires ou 5-6 bons résultats de suite? Mais de l'autre côté aussi, puis je me rappelle quand moi je jouais dans le temps, notre dicton, c'était on ne perd pas 2 matchs de suite. Mm. On fait n'importe quoi, on va chercher une nulle après ou bien sûr on rebondit avec une victoire pour ne pas tomber dans des creux dans la saison. Chose qu'on n'a pas été capable de faire. Donc, si on est capable de faire un pas vers cette mentalité-là, ça va être déjà une opportunité pour nous de continuer à bâtir l'équipe.
Et on continue à regarder des options, excuse-moi Gabriel, mais pour l'été aussi, on a la flexibilité pour faire certaines acquisitions. Donc, on veut améliorer l'équipe, on voit qu'il y a certaines peut-être lacunes dans certaines positions, puis on veut les adresser tout de suite.
Comment tu le vis quand tu vois les supporters qui parlent, puis à quelque part ça devient factuel aussi, là, de la plus petite masse salariale en MLS, c'est des budgets que tu ne décides pas, peut-être que tu les décides en partie, là, je ne sais pas comment ça fonctionne.
Je ne les décide pas.
Non, c'est correct, il y a ça de clair, mais après il faut que tu opères avec. Ça te place dans quelle situation, ça, de savoir que tu as peut-être un petit peu de marge, mais tu n'as pas la même marge que d'autres clubs?
C'est sûr, chaque décision, si tu la rates, you're going to pay for it in the long run. Mais c'est pour ça qu'aussi, on doit être un peu intelligent, parce que je sais que, par exemple, cet hiver, on n'a pas fait peut-être un grand coup vers la fin du mercato, mais...
Tu veux dire en avril, là?
En avril, parce qu'on ne veut pas non plus faire quelque chose pour le court terme, pour patcher quelque chose, puis après avoir des problèmes dans le long terme. On peut voir dans l'équipe, peut-être on a des situations où on a fait quelque chose parce qu'on voulait faire quelque chose vite to fix a solution. Ouais. Puis ça nous met plus dans la difficulté dans 2 ans, 3 ans, etc. Donc pour nous, l'important, c'est toujours d'investir bien dans des opportunités qui peuvent venir et de ne pas toujours penser à maintenant dans cette situation, mais vraiment essayer de penser dans 6 mois, dans 1 an, etc. Donc c'est un peu ça la situation. We don't want to handcuff ourselves either.
Mm-hmm. Mais je veux juste rajouter là-dessus, si vous me permettez, c'est que moi, je travaille là-dessus, bien sûr, les budgets prescrits chaque année. Et je le répète souvent, ce n'est pas d'avoir le plus haut budget dans l'MLS, c'est garant de succès. Je ne vais pas mentionner certains exemples, mais c'est compliqué, même si ces équipes-là dépensent énormément d'argent. Nous croyons fermement que d'une façon disciplinée, on peut bâtir une bonne équipe compétitive pour gagner. D'accord? Donc, on avait un budget prescrit pour 2025. Je peux vous dire que l'acquisition de Sinchuk n'était pas dans le budget initial. C'était quelque chose que notre conseil d'administration nous a dit, si vous avez un projet intéressant qui peut vous aider à bâtir le futur, aider dans le projet sportif qu'on a qui est autour de la jeunesse, synergie avec Bologne, okay, du développement, et qui nous aide à gagner, on va vous l'écouter. Et c'est ça qu'on a fait. On a présenté, c'est Luca qui a chapeauté tout ce projet, de faire venir Sinchuk. Donc, on a cette flexibilité-là. Et oui, il y a certains mécanismes dans l'MLS que Luca connaît bien mieux que moi, mais autour de l'initiative des U22, comment qu'on peut optimiser tout ce qui est l'effectif.
Et aussi le cash for player qui change la donne cette année. À quel point c'est un filon à utiliser pour vous particulièrement? Parce que ça vous apporte une certitude. Tu sais, la liste est longue, là. Olivier Renard avait beaucoup de qualités, mais il y a énormément de joueurs qui sont arrivés de l'extérieur qui n'ont pas réussi. Il y a d'autres exemples avant, il y a des exemples depuis. La certitude d'aller chercher un gars pour lequel tu payes peut-être un petit peu plus, mais tu sais qu'il est performant en MLS, à quel point ça peut être un atout pour vous?
Super important. Super important. Des fois, même the integration, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, le fait qu'un joueur est déjà dans la ligue, il connaisse la ligue, il connaisse les voyages, des fois, on joue beaucoup de matchs dans un certain temps. Donc, tout ça, ça aide beaucoup dans l'intégration du joueur dans la nouvelle équipe.
Il faut que tu ailles jouer à Foxborough pour savoir si c'est pas Foxborough. Deux, trois petites questions très, très, très rapides parce que, Gabriel, je sais, tu dois être libéré par la suite. Est-ce que tu peux porter ces chapeaux-là, ces deux chapeaux-là, celui de président et de porte-parole du secteur sportif? On peut-tu l'appeler comme ça? Secteur sportif. Peux-tu porter ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ou est-ce que c'est une certaine période jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le relais, que ce soit Luca ou une autre structure?
Oui, mais comme je dis, on travaille en comité, mais là, Luca, vous l'avez bien dit, il revient à temps plein à partir du mois de juin. Il va être plus impliqué au point de vue aussi de représenter l'équipe sportive.
Être un porte-parole.
Oui, être un porte-parole. Avec toute ouverture, c'est bon d'avoir d'autres personnes aussi, Olivier, qui viennent parler à toi, aux autres médias. Donc, je vois ça d'un bon œil. Donc, l'idée, c'est pas que ça soit juste moi. Je vais continuer à chapeauter cette équipe. Mais on a des gens qui montent, qui sont hyper talentueux, qui ont l'équipe à cœur. Et il faut les mettre de l'avant.
Parle-moi de tes dernières semaines, parce que là, tu t'en viens ici, t'installer, te réinstaller à Montréal de manière permanente. t'es ici, il y a le 6-1 contre Toronto, tu reviens, Forge bat le CF Montréal en championnat canadien, mais ça, c'est dans la foulée d'une victoire en Coppa Italia avec Bologne. Mm-hmm. Toi, dans la catégorie montagne russe d'émotion.
Ben, en fait, c'est pas une blague, mais c'est la réalité, c'est que j'ai pleuré deux fois la semaine passée, quand on a gagné le championnat puis qu'on a perdu 6-1 contre Toronto, et je pleurais pour deux raisons complètement différentes. Mais non, c'est sûr que l'émotion que j'ai vécue à Bologne, c'est aussi, il y a beaucoup d'émotions parce que je sais le travail qui a été fait par beaucoup de personnes, non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain.
Puis c'est un demi-siècle là, de travail. Ouais, c'est pas juste que vous avez fait comme famille.
Alors, bien sûr, c'est quelque chose que la ville attendait, les supporters, et voir la joie et l'émotion qu'on a pu rendre à les fans là-bas, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que je sais qu'on a ce potentiel ici et la fierté que j'ai vu les fans avec à Bologne, je veux l'apporter ici à Montréal. Je pense qu'on peut le faire et donc c'est ça, c'était vraiment émotionnel, mais je sais qu'on peut faire la même chose ici. Je suis confiant.
Ton objectif principal maintenant, au-delà de gagner un trophée pour toi, comme je te parlerai de l'entreprise au complet, parce que défi qui arrive avec des mauvais résultats sur le terrain, c'est que ça a un effet boule de neige sur la perception qu'on a de la marque, que les partenaires ont de leur expérience avec vous. Je pense que malgré les difficultés des dernières années, depuis ton arrivée, les partenaires sont plus nombreux, sont plus engagés. On le sent à chaque événement de lancement. C'était le cas encore cette année. C'est quoi ton objectif, toi, comme président? Là, je te demande de remettre ta casquette initiale pour le reste de l'année 2025.
Mais c'est sûr, la priorité, je vais mettre encore ma casquette côté sportif parce que c'est vraiment de redresser la situation.
Sportivement.
Au point de vue des performances. On peut parler de marketing, de vente et tout, mais notre meilleur marketing, c'est se passe produit. Sur le terrain, notre produit. Donc, ça, c'est notre priorité numéro un. Luca l'a mentionné, au mois de juillet, on va regarder notre effectif. On va regarder des façons d'améliorer l'effectif à des postes clés. On a une flexibilité financière pour y arriver. Et la réalité, Olivier, c'est que si on prend une photo maintenant, juste avant de répondre complètement à ta question, si on prend une photo de notre effectif maintenant tel quel et on regarde tous les joueurs et même les joueurs qui sont en prêt, oui, on peut parler de la masse salariale et tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a certains joueurs qui ne jouent pas à niveau. Mm-hmm. Okay, je ne vais pas les nommer, mais certains joueurs ne sont pas à niveau, que ça nous fait très mal. Il y a d'autres joueurs qu'il y a beaucoup d'argent d'investi d'un point de vue de transfert, d'achat et aussi d'un point de vue de salaire qui ne nous donnent pas les minutes productives qu'on s'attend d'eux. Et pire à ça, même depuis l'année passée, ce sont des joueurs qui sont dans les estrades, qui ne sont même pas habillés. Donc, il est là un peu la complexité de qu'est-ce qu'on vit. Donc, si cette année, je sais que les gens mentionnent c'est une année aux poubelles et tout ça, nous, on ne le voit pas de même. On le voit comme une opportunité d'apprentissage, parce que je dis ça à mes enfants, chaque défaite, c'est une opportunité d'apprendre. Mais si tu n'apprends pas, il y a un problème, par contre. Donc, il faut apprendre de nos défaites. Et aussi, c'est une opportunité pour nous de continuer à faire évoluer notre effectif et même de prendre des décisions difficiles, de se débarrasser de certains fardeaux qui pèsent tellement fort sur la masse salariale et qui ne nous rapportent pas quelque chose de concret sur le terrain.
Parce qu'au final, j'allais dire... Votre objectif, c'est d'être le plus profitable possible ou d'être profitable, point. Ça passe... Tu sais, l'aspect négatif que tu peux voir là-dedans, c'est on va perdre nos meilleurs. Mm-hmm. Mais à l'inverse, 2022, corrigez-moi si je me trompe, est le meilleur exemple que pour perdre nos meilleurs, il faut être bon et avoir des résultats.
C'est exactement ça, Olivier. C'est pas vendre nos meilleurs, mais c'est aussi d'avoir un petit peu de rentabilité. Ça fait partie du sport. Tous les équipes le font et ça fait partie de notre sport. Mais ça veut pas dire juste parce qu'on vend. Premièrement, on vend pas à tout prix. Donc, on est intelligent avec ça. Mais c'est surtout pas vendre juste pour vendre. On veut aussi gagner. Donc, c'est pas qu'on vend toute l'équipe parce qu'on vend toute l'équipe. C'est intelligently vendre certains pièces. Oui. And replace them avec ceux qui peuvent continuer. Notre but, c'est toujours de gagner. On veut gagner. On n'aime pas perdre, surtout contre des rivaux, surtout de la façon que ça s'est fait la semaine passée. Mais pour nous, on veut gagner.
Luca, Gabriel, merci encore une fois. Je l'ai dit d'entrée de jeu, au cas où quelqu'un l'aurait raté. Je pense que c'est votre intention de rencontrer les médias au sens large dans les prochains jours. Je comprends tout à fait ça, mais j'apprécie énormément que vous ayez honoré cette entrevue-là qu'on attend depuis des mois. C'est un peu moins de palmiers ici au Centre Nutrilait, un peu plus de casernes, mais c'est correct, ça a été tout aussi agréable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Merci.